Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Quatorze candidats à l'exil ont été sauvés en mer au large de la Libye, un sauvetage mené par les équipes du navire de SOS Méditerranée. La Tunisie et l'Algérie ont signé 27 accords et protocoles d'accords bilatéraux. Le président algérien a entamé une visite d'État de 2 jours en Algérie. Nous y reviendrons avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Les autorités marocaines mettent fin aux mesures prises ces derniers jours pour le rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger. Une décision liée à la propagation rapide du variant Omicron dans le monde. Gros plan sur la question mémorielle entre la France et l'Algérie après l'annonce de la prochaine ouverture des archives sur les enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie. Nous écouterons le député Pierre Daréville, porte-parole du groupe communiste à l'Assemblée nationale. La justice a décidé aujourd'hui de rouvrir le dossier judiciaire du jardinier marocain Omar Radad, cet homme condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal. La crise sanitaire en France, comment réduire les contaminations lors des fêtes de fin d'année? Nous écouterons les propositions du député Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale. La Coupe arabe des Nations, une finale Algérie-Tunisie, ce sera samedi. Les Fennecs ont battu le Qatar hier soir de 2-1. La Tunisie l'a emporté sur l'Égypte 1-0. Le mondial féminin de handball, les Françaises se sont qualifiées pour la demi-finale. Une victoire 31-26 face à la Suède. Un sauvetage au large de la Libye, 114 candidats à l'exil ont été sauvés en mer, sauvetage mené par les équipes du navire de SOS Méditerranée. Ces personnes tentaient de rejoindre l'Europe. Malgré une insécurité persistante, la Libye reste un important point de passage pour des dizaines de milliers d'exilés qui cherchent chaque année à gagner l'Europe par les côtes italiennes. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 23 000 personnes au moins sont mortes ou portées disparues en Méditerranée depuis 2014 en tentant de rejoindre l'Europe, dont plus de 1600 depuis le début de l'année 2021. Le président algérien a entamé mercredi une visite d'État de 2 jours en Tunisie. Le président tunisien et son homologue Abdelmadjid Tebboune ont présidé au palais de Carthage une cérémonie de signature de 27 accords et protocoles d'accord entre la Tunisie et l'Algérie. Ils couvrent notamment les domaines de la justice, de l'industrie, de l'environnement, du commerce extérieur ou encore de la culture. Sur la coopération entre la Tunisie et l'Algérie, entretien avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
La Tunisie ou l'Algérie fait partie des destinations, en tout cas prioritaires, du chef d'État pour signifier la solidité des relations entre les deux pays, mais aussi il y a une certaine historicité de ces rapports. Et chaque chef d'État, le président Tebboune n'en fait pas exception, a tenu à visiter la Tunisie. Cette visite, elle a été préparée par plusieurs délégations. C'est pour dire l'importance que revêt cette visite du chef d'État à M. Tebboune.
Une solidité des relations, selon vos mots, qui a été mise en application lorsque la Tunisie a subi diverses crises, et notamment l'été dernier.
Oui, alors l'Algérie a marqué sa solidarité, son soutien. Peu importe d'ailleurs ceux qui gouvernent en Tunisie, c'est ça le point qui est important à souligner. L'Algérie entretient de bonnes relations même avec les perdants. Elle entretient de bonnes relations avec Rached Ranouchi, le chef de Ennahda, qui s'est déplacé plusieurs fois à Alger. Et c'est l'Algérie qui est derrière la fameuse réconciliation entre l'ancien président tunisien Bajir Kaïd Sebsi et Rached Ranouchi. Et aujourd'hui même, l'Algérie tient à observer une certaine neutralité par rapport à ce qui se passe en Tunisie, en soulignant l'importance de sauvegarder les institutions de l'État. Et le deuxième élément, c'est bien entendu l'élément sécuritaire et l'élément militaire. Je crois que c'est un élément aussi qui fait le socle de la permanence des relations entre Tunisie et Alger.
Concernant la coopération économique, comment l'évaluez-vous aujourd'hui?
La coopération économique, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Elle ne répond pas aux attentes des deux États, ni des deux peuples, ni d'ailleurs à la demande même des entreprises tunisiennes et algériennes. D'abord, les frontières sont fermées, ce qui provoque un manque à gagner très important pour le trésor tunisien. Il faut rappeler qu'avant la pandémie, environ 1 million, 1 200 000 Algériens traversaient la frontière tunisienne pour passer l'été en Tunisie. Même le volume d'échange n'atteint pas le niveau, en tout cas, demandé, exigé dans une relation comme celle qu'entretient l'Algérie et la Tunisie. Et je crois que la nature de cette délégation, quand on voit les ministres qui accompagnent et M. Tebboune, ça traduit à cette volonté de la part des Algériens et sûrement des Tunisiens d'augmenter le volume d'échange et aussi de renforcer, si ce n'est pas augmenter vraiment ce volume d'échange, et aussi d'arriver à un niveau qui correspond à la fois aux demandes, mais aussi à la situation économique tunisienne, hein, qui cherche des débouchés et qui traverse une situation difficile.
Les relations entre les deux hommes, les deux chefs d'État, comment les qualifiez-vous et ont-ils des similitudes?
On a affaire à deux présidents, finalement, qui sont des outsiders, même si Abdelhadji Tebboune a fait partie de ces rails politiques sous Bouteflika et même avant, mais il n'est pas chef d'un grand parti politique, il n'a pas une assise en quelque sorte populaire aux partisans, il a été adoubé par l'institution militaire, par l'ancien chef d'état-major et propulsé chef de l'État suite à une élection, mais et en même temps on sait bien que M. Kais Saied a fait un parcours qui ressemble au parcours de M. Tebboune, même s'il a été élu lors d'un suffrage universel.
Et quel est le rôle aujourd'hui de ces deux pays, l'Algérie et la Tunisie, dans la crise que traverse la Libye avant d'hypothétiques élections, avant une hypothétique élection présidentielle le 24 décembre prochain?
La coordination entre d'abord la Tunisie et l'Algérie, elle est importante. Les deux pays font partie de ce qu'on appelle le groupe de voisinage avec l'Égypte. Il y a une certaine concordance, il y a une certaine convergence de vues entre Tunis et Alger sur leur rôle important joué par les États voisins, mais aussi sur le respect de la légalité, le refus de l'intervention. Mais cette convergence de vues sur la Libye, elle passe aussi par une coopération sécuritaire qui ne date pas d'hier, hein, elle est très ancienne, où on sait très bien que la frontière que partagent les deux États exige une présence militaire importante tout au long des frontières est de l'Algérie. La Tunisie a fait face à plusieurs attaques terroristes. Il y en a les attaques connues de Tunis ou du Sud, mais surtout les attaques aussi du côté des frontières avec l'Algérie. Et on sait justement que la présence militaire algérienne tout au long des frontières est un élément important pour consolider la sécurité de la Tunisie.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. La Tunisie commémorera ce vendredi les 11 ans de l'immolation de Mohamed Bouazizi. Le 17 décembre est devenu, à la demande du président Kais Saied, la date anniversaire de la révolution. La journée sera marquée par des manifestations, notamment à l'appel de l'opposition. Cela après que Kais Saied a décidé de prolonger d'un an le gel du Parlement. Le chef de l'État a aussi annoncé la tenue d'un référendum le 25 juillet prochain sur des amendements de la Constitution qu'il veut plus présidentielle et de la loi électorale qui régira les législatives. Les vols de passagers à destination du Maroc seront de nouveau interdits à partir de jeudi prochain. Une annonce du comité interministériel du suivi de la pandémie. Les autorités mettent fin aux mesures prises ces derniers jours pour le rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger. Une décision liée à la propagation rapide du variant Omicron dans le monde. Des réactions politiques après l'annonce de la prochaine ouverture des archives sur les enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie. Une annonce faite vendredi dernier par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, suite à cette mesure, à cette annonce, entretien avec Pierre Daréville, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, porte-parole du groupe communiste à l'Assemblée nationale, Pierre Daréville.
C'est plutôt une bonne nouvelle, je pense qu'il faut donner aux historiens les moyens de travailler, il faut qu'on puisse regarder sereinement les matériaux dont nous disposons, et je pense que ça ne peut que aider à construire l'avenir, de pouvoir regarder l'histoire en face. De pouvoir permettre à des historiens des deux rives ou d'ailleurs de se pencher sur cette histoire, sur ces documents, sur ces drames, et de pouvoir du coup nous éclairer, nous toutes et nous tous. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Sur la question mémorielle, entre la France et l'Algérie, avez-vous constaté des avancées significative au cours de ce quinquennat? On se souvient notamment de la visite du chef de l'État chez la veuve de Maurice Audin.
Oui, bien sûr que ça avait été un geste marquant et auquel nous avons été sensibles. En même temps, on ne peut pas considérer que les relations entre l'Algérie et la France soient singulièrement améliorées depuis quelques années et surtout depuis quelques mois. On a vu une recrudescence de tensions qui... À mon avis, aurait pu être évité parce qu'il y a eu des gestes qui ont été faits, y compris par le gouvernement français, à l'égard de l'Algérie, mais pas seulement, qui n'allait pas dans le sens d'une relation constructive. Donc voilà, je l'ai regretté. Bon, cela étant dit, on va quand même prendre le positif de la mesure qui a été annoncée sur l'ouverture des archives, en espérant encore une fois qu'elle nous permette d'avancer du bon pied.
Est-ce que l'apaisement de ces tensions passerait par la mise en œuvre de l'ensemble des mesures préconisées par le rapport de l'historien Benjamin Stora?
Ben, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai travail qui a été fait par Benjamin Stora, donc il faut qu'il soit pris en compte de la meilleure manière possible. Après, évidemment, c'est des choix politiques, c'est responsabilité politique, donc il faut que tout ça s'insère dans un cadre plus global. Mais on ne peut pas considérer, en tout cas, qu'avec les décisions qui ont été prises, on est au bout.
Voilà. Pierre Daréville, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, porte-parole du groupe communiste à l'Assemblée nationale. La justice a demandé ce jeudi de rouvrir le dossier judiciaire du jardinier marocain Omar Radad, cet homme assassiné pour le meurtre de Guylaine Marchal. La commission d'instruction a ordonné un complément d'information. L'avocate d'Omar Radad évoque un pas vers la révision du procès. Condamné en 1994 à 18 ans de réclusion, sans possibilité de faire appel à l'époque, Omar Radad a bénéficié d'une grâce partielle du président Jacques Chirac, puis d'une libération conditionnelle en 1998. La crise sanitaire en France, la gratuité des tests anti-Covid le 24 décembre et le 31 janvier, le souhait du parti Agir Ensemble à l'Assemblée nationale, objectif réduire les contaminations lors des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, les tests sont payants pour les personnes non vaccinées. Le député Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale.
Moi, je pense sur la crise sanitaire qu'il est extrêmement important aujourd'hui de resserrer un certain nombre de dispositifs. On voit bien qu'on a un variant Omicron qui arrive, qui est extrêmement contagieux. Le secrétaire d'État à la Santé au Royaume-Uni faisait état ce matin de probablement 200 000 contaminations par jour. Nous avions la semaine dernière chez nous à peu près 60 000 contaminations par jour. Donc plus que jamais, il est important de tester massivement la population, de tracer l'ensemble des personnes et des cas contacts et d'isoler les personnes positives et les cas contacts pour éviter la transmission du virus, dont on sait aujourd'hui que même pour les personnes vaccinées, elle n'empêche pas complètement justement l'infection, le risque à terme de développer des Covid longs avec des pathologies qui peuvent être invalidantes. Le vaccin nous protège, il nous protège bien contre les formes graves, c'est-à-dire contre le fait de se retrouver à l'hôpital, en réanimation ou au cimetière, ce qui est une vraie avancée par rapport à ce que nous avions il y a un an. Mais malheureusement, le vaccin ne permet pas de vaincre l'épidémie, c'est-à-dire de faire disparaître le virus. Donc on doit plus que jamais insister sur les gestes barrières, sur la stratégie du tester, tracer, isoler. Et d'ailleurs, le groupe Agir Ensemble a saisi le gouvernement pour faire en sorte que les tests puissent être gratuits les 24 et 31 décembre pour faire en sorte que les gens qui vont se réunir, même non vaccinés, puissent avoir accès aux tests. C'est le meilleur moyen de se protéger les uns les autres.
Des tests gratuits les 24 et 31 décembre.
Oui.
Sur le Covid long également, vous souhaitez une prise en charge mieux adaptée aujourd'hui?
Sur le Covid long, oui, nous souhaitons qu'il y ait une prise en charge et surtout nous souhaitons que le Covid long soit intégré dans la stratégie sanitaire elle-même. Parce que aujourd'hui, on voit qu'on a un peu les yeux rivés sur les chiffres d'hospitalisation et de réanimation et on ne prend pas, à notre sens, assez en compte la question de l'impact sur la santé des gens, parce qu'il y a des gens qui, même vaccinés, qui vont attraper le Covid, vont faire une forme légère du Covid, mais peuvent derrière développer des symptômes de Covid long. Or, un Covid long, ça peut être invalidant pour quelqu'un qui va le porter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. On n'en sait rien. Et donc, moi, je pense que moins le virus circule, moins il impacte de gens, mieux on se portera dans les prochaines années. Je le pense notamment sur un plan géopolitique, parce qu'on a beaucoup de pays d'Asie et d'Océanie qui ont mis en place la stratégie zéro Covid, qui eux ont un virus qui circule beaucoup moins, dont la population va être beaucoup moins impactée. Et donc, il est important aussi que notre pays et l'Occident en général ne sortent pas à la fin de la crise affaiblis par les Covid longs. Je rappelle, par exemple, que durant la Première Guerre mondiale, il y a eu 1,4 million de morts, mais il y a eu quasiment 5 millions de personnes invalides à la sortie. Les 5 millions de personnes invalides ont davantage pesé, hélas, sur la compétitivité et le dynamisme du pays que les personnes qui étaient décédées. Et donc, il faut prendre en compte, à notre sens, cette variable dans la gestion de l'épidémie.
Le député Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée. Le mondial féminin de handball, les Françaises se sont qualifiées pour la demi-finale. Victoire 31-26 face à la Suède. Les championnes olympiques de Tokyo affronteront le Danemark ce vendredi à 17h30. La seconde demi-finale entre l'Espagne et la Norvège débutera, elle, à 20h30. Ce sera une finale Algérie-Tunisie. Les Algériens ont battu le Qatar ce mercredi soir lors de la demi-finale de la Coupe arabe des Nations. Une victoire de 2-1. La Tunisie l'a emporté sur l'Égypte 1-0. La finale aura lieu samedi à 16h. Et si on en parlait ce soir à 19h et 23h, le thème de cette émission, crise de la justice, pourquoi les magistrats montent en première ligne. Alexis Bachelet recevra Guillaume Didier, magistrat en disponibilité, ancien porte-parole du ministère de la Justice, et Mathieu Boissavi, avocat au barreau de Paris et New York. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.